Les étoiles. Une étoile est une boule de gaz, surtout de l'hydrogène porté à incandescence, qui évolue au fil de réactions de fusion nucléaire et dégage de la chaleur et de la lumière. Brillante au-dessus de nos têtes, au sommet du sapin ou au firmament de Hollywood, elles accompagnent notre vie et n'ont pas fini de nous faire lever le nez. Elles naissent à partir de la contraction de nuages de matière interstellaire de très grande étendue, mais de faible densité. La seule force de la gravitation suffit à réunir ce nuage en une boule de matière. Plus cette masse se contracte, plus sa température s'élève.
Un peu de technique. Faites un vœu. Les étoiles filantes sont d'infimes poussières qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et qui se désintègrent par frottement. En se consumant, elles dessinent dans le ciel des séries de stries lumineuses. Ce sont des traînées lumineuses qui apparaissent brusquement au milieu des étoiles. Elles paraissent s'écouler sur la voûte céleste, puis disparaissent, parfois presque aussi vite qu'elles sont apparues. Leur couleur et l'intensité de leur éclat sont très variables. Elles apparaissent à des altitudes de 120 km et disparaissent vers 90 km. Leur vitesse de déplacement est de l'ordre de 70 km par seconde. Ce phénomène survient en permanence, même s'il est plus facile à observer par une belle nuit d'été. D'après la tradition, lors de leur passage, il faut prononcer un vœu qui ne manquera pas d'être exaucé dans l'année.
On distingue plusieurs types d'étoiles. Les plus grandes, les mortes, celles qui sont en cours d'activité ou celles qui s'effondrent sur elles-mêmes. La géante rouge est une étoile qui, ayant épuisé en son cœur tout l'hydrogène disponible, brûle son oxygène. Quand la combustion de l'oxygène est achevée, elle a atteint sa plus grande taille. La naine blanche est une ancienne géante rouge, une étoile en fin de vie qui a consumé toutes ses réserves de combustible nucléaire, mais n'atteint pas la taille d'une nova et s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravitation au fur et à mesure qu'elle perd son énergie, ce qui provoque son rayonnement. La naine brune est un corps céleste resté à un stade intermédiaire entre nuages gazeux et étoiles. Son rayonnement est nul. La naine noire est une naine blanche morte après avoir perdu toute son énergie. Elle n'émet donc plus aucun rayonnement. La nébuleuse, nebula en latin, est un nuage de gaz et de poussière accumulée. S'il se contracte suffisamment, il peut engendrer une étoile. La proto-étoile est une étoile en cours de formation. La nova est la phase d'explosion d'une étoile qui se traduit par un intense rayonnement lumineux. Elle est appelée supernova si elle est très massive. De toutes les étoiles, la plus lumineuse serait Carinae, 6 millions de fois plus lumineuse que le Soleil, mais elle est située à 6400 années-lumière. Nous ne voyons pas son éclat. La plus éloignée serait dans la galaxie C, 11358-62, située à 13 milliards d'années-lumière, identifiée en 2001 par une photographie prise à partir du télescope spatial Hubble. Les météorites. Les météorites sont des fragments de corps célestes qui deviennent chaleur et lumière en pénétrant l'atmosphère terrestre. Plusieurs centaines percutent la Terre chaque année, de taille variable, depuis le petit caillou jusqu'à celle capable de creuser un cratère. Les météorites portent le nom de la constellation dans laquelle elles évoluent, en un groupe appelé Essaim, les Léonides dans la constellation du Lion, par exemple.
Le saviez-vous? Attention, chute de pierre. Les météorites frappent l'imagination. Il semble que le ciel nous tombe réellement sur la tête. Les plus marquantes sont conservées au musée ou dans les mémoires. La confrérie des gardiens de la météorite des Isheim, conservée au palais de la Régence en Alsace, garde une météorite de plus de 100 kilos, tombée le 7 novembre 1492. Chaque année, au mois de juin, la confrérie organise un rassemblement de passionnés du monde entier pour une bourse d'échange. Le 30 juin 1908, à 7h15 locale, Une gigantesque explosion se produit dans la forêt de la Tunguska, en Sibérie. Le bruit en fut perçu jusqu'à Saint-Pétersbourg, à 2000 km de là. Les arbres brûlés sur 10 km, déracinés sur 100 km. Il s'agirait d'une météorite ayant explosé dans notre atmosphère, entre 9 et 6 km d'altitude, pesant environ une tonne. Mais aucun débris n'a été retrouvé sur place. L'énergie dégagée par l'explosion équivaut à 1000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Le 18 janvier 2000, une météorite explose au-dessus de la province du Yukon, à l'ouest du Canada, à 25 km d'altitude. La violence de l'explosion est évaluée par les scientifiques à l'équivalent de plus de 2000 tonnes de TNT. Des centaines de débris atteignent le sol, sans faire de victimes.
Les comètes. Les comètes sont de petits astres composés de roches, de glace et de poussière, d'eau, d'ammoniac, d'oxyde de carbone ou encore de méthane. Elles gravitent autour du Soleil en suivant des orbites très allongées. Apparues par condensation il y a environ 4,5 milliards d'années, elles mettent plusieurs millions d'années à tourner autour du Soleil. Déviées de leur trajectoire par un choc avec un autre corps, par exemple, elles s'approchent du Soleil. Les matériaux qui les composent s'échauffent, on dit qu'ils se subliment, ils passent de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, donnant naissance autour du noyau à une auréole lumineuse, la chevelure. Puis naissent à l'opposé du Soleil une queue de gaz bleutée et fine et une queue de poussière jaunâtre et large. On en recense de nouvelles tous les ans, depuis 3 ou 4 jusqu'à plus de 200 en 2005. Elles sont de mieux en mieux observées grâce à la puissance accrue des télescopes. Elles le sont scientifiquement depuis 1705, date à laquelle Edmund Halley dresse la première table des orbites de 24 comètes, publiée dans le Astronomiae Cometicae Synopsis. La plus célèbre d'entre elles, la comète de Halley, fait partie du groupe de 50 comètes environ qui reviennent périodiquement se faire admirer. Elle nous fait l'honneur d'une visite tous les 76 ans environ. Venue en 1531, 1607, 1682, 1758, 1835, 1910, 1986, son retour est annoncé pour le mois de juillet 2061. Il ne nous reste plus qu'à nous armer de patience, à faire preuve d'optimisme et à attendre. Le système solaire. Notre système solaire se compose d'une étoile, le Soleil, et de planètes. Il comporte également les satellites de ces planètes, ainsi que les astéroïdes et les comètes. L'ensemble de notre système solaire gravite à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée. En se refroidissant, l'univers s'est divisé en différentes galaxies, dont la nôtre, appelée Voie lactée, gigantesque concentration d'étoiles en forme de spirale. Le Soleil. Niché dans la Voie lactée, le système solaire est apparu il y a 4,5 ou 5 milliards d'années. Il s'est formé à partir d'un nuage de gaz, dont une partie provenait de l'explosion d'une étoile plus ancienne, le reste étant composé d'hydrogène et d'un peu d'hélium. Le Soleil représente à lui seul 99% de toute la matière du système solaire. Pour en faire le diamètre, il faudrait 109 Terres. L'énergie solaire naît au cœur du Soleil, à une température de 15 millions de degrés, et une pression 340 milliards de fois supérieure à celle existant sur Terre. L'énergie ainsi amassée se déplace ensuite vers la surface et est libérée sous forme de chaleur et de lumière. Cette opération prend environ 1 million d'années.
Un peu de technique. SOHO est pourtant si proche. La sonde SOHO, le Solar and Heliospheric Observatory, a été lancé le 2 décembre 1995 de la base de Cap Canaveral aux États-Unis. Elle est le fruit d'une collaboration entre Européens et Américains. Elle livre des observations sur le Soleil depuis 1996 et termine sa mission en 2007. Équipée d'instruments de recherche, elle a un objectif, l'étude de la structure interne du Soleil, du vent et de l'atmosphère solaire. Soho a fait très peur à ses papas, en disparaissant du 25 juin au 23 juillet 1998. Retrouvée, elle a été remise en activité en septembre 1998 et ne présente pas de séquelles, en dépit de ses 6 semaines d'hibernation à moins 40 degrés. Le premier résultat le plus marquant de Soho est fourni en septembre 2003, quand la mesure de la rotation interne du Soleil montre que l'intérieur du Soleil tourne seul bloc, comme un corps solide.
Le Soleil est composé du centre à la surface du noyau où se déroulent les réactions thermonucléaires. Vient ensuite l'enveloppe où se produit le transfert d'énergie vers la surface, puis la photosphère qui émet la majeure partie du rayonnement. La chromosphère, ensuite, projette de la matière sur plusieurs milliers de kilomètres et est recouverte par la couronne que nous voyons à l'œil nu. Une éclipse désigne le moment où la Lune se trouve placée entre le Soleil et la Terre, événement qui ne survient que lors d'une nouvelle Lune. Une partie de la Terre se trouve de ce fait être dans l'ombre de la Lune. Pour qu'une éclipse se produise, il faut que, dans cet ordre, 3 planètes soient alignées sur un même axe. Le Soleil, la Lune, la Terre. L'éclipse commence quand l'ombre de la Lune mord sur le disque solaire. Il existe 3 types d'éclipses du Soleil. L'éclipse partielle se caractérise par le recouvrement partiel du Soleil par la Lune. Lorsqu'un rond lumineux est visible autour de la Lune, on parle d'éclipse annulaire. Le dernier type d'éclipse est l'éclipse totale. Les planètes. Traditionnellement, le Soleil est entouré de 9 planètes, nées comme lui d'un nuage de matière interstellaire. Classées d'après leur proximité au Soleil, ce sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Toutefois, depuis août 2006, ce classement a subi quelques transformations. Suivant les décisions de l'Union astronomique internationale, Pluton est rétrogradé au rang de planète naine. Cérès, Charon, 2003, UB313, qui devrait prendre le nom de Xéna, entrent également dans cette catégorie. La nouvelle liste des 12 planètes, toujours selon le critère de leur distance par rapport au Soleil, est donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Charon, Pluton et 2003 UB313. Mercure. Connu déjà dans l'Antiquité, Mercure est la première planète du système solaire, la plus proche du Soleil. C'est une petite planète, Pluton seul étant encore plus petite. Très proche du Soleil, la chaleur du jour mercurien est intense, supérieure à 400 degrés Celsius. Mais comme son atmosphère est nulle, les nuits y sont très froides, la température descend à moins 180 degrés Celsius. Cet écart de température est le plus important de toutes les planètes connues. Dépourvu de satellites, Mercure est connu depuis l'Antiquité à Sumer. Sur les clichés photographiques, Mercure présente la même apparence désolée que la Lune. Sous une croûte épaisse d'environ 500 km, le noyau de la planète est constitué de métaux ferreux et pourrait être en partie liquide. Le pourcentage de fer sur Mercure est plus important que sur tout autre objet du système solaire. Vénus. Déjà l'étoile du matin des anciens, Vénus présente de nombreuses analogies avec la Terre. Même taille, même volume, même densité et même origine. Toutefois, cette planète est dépourvue de mer ou d'océan, mais surtout, son atmosphère est composée pour l'essentiel de dioxyde de carbone. Les nuages y libèrent des pluies d'acide sulfurique. Vénus préfigure ce que pourrait être la Terre si l'effet de serre parvenait à son apogée, une température en surface avoisinant les 500 degrés Celsius. La surface de Vénus présente de très grandes plaines recouvertes de coulées de lave et des hautes montagnes. 85% de la surface est recouverte de roches volcaniques. L'activité des volcans a dû y être très intense, puisque certains d'entre eux offrent des cheminées de plus de 100 km de diamètre. À l'inverse de toutes les autres planètes du système solaire, la rotation de Vénus est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le saviez-vous? Vénus, déesse de l'amour, vache. Déesse de l'amour dans la mythologie gréco-romaine, Vénus est balayée en permanence par des vents dont la violence augmente avec l'altitude. Environ 4 km/h au sol, 300 km/h à 11 km. Et il pleut, de l'acide sulfurique. La température y est en permanence comprise entre 450 degrés et 500 degrés Celsius. Pourtant, en raison de la lenteur de sa rotation, la nuit vénusienne dure plus de 100 jours, mais sans baisse notable de la température. Les vents sont d'une violence telle qu'ils se transforment en tornades. Les nuages jaunes, gorgés d'acide sulfurique, réfléchissent davantage la lumière du soleil et concourent à l'augmentation de la température. Les orages vénusiens sont quasiment permanents, accompagnés d'intenses décharges électriques et de gigantesques éclairs rouges. Ils sont rendus d'autant plus redoutables par un formidable bruit de tonnerre.
La Terre, seule planète connue du système solaire à abriter la vie, la planète bleue se présente spontanément comme une boule d'océan et de mer d'où émergent quelques terres. Son nom semble bien mal lui aller. Océanos était plus exact car elle est recouverte de 70% d'eau. Mer protectrice, son noyau de nickel et de fer en fusion génère un champ magnétique, lequel, avec l'atmosphère, renvoie les radiations dangereuses du Soleil. La température moyenne sur Terre est de 15 degrés Celsius et sa vitesse de déplacement de plus de 100 000 km/h ne gêne en rien la joie de l'habiter. Bien que son atmosphère soit composée à 78% d'azote, les 21% d'oxygène assurent le développement de toutes les formes de vie. Surnommée Gaïa chez les Grecs et les Romains, elle est notre promise de toute éternité. Mars. Planète du dieu de la guerre en raison de la couleur de son sol, Mars est désignée souvent comme étant la planète rouge. Pendant longtemps, les traces affleurant à sa surface ont fait penser qu'il avait pu y avoir des cours d'eau, voire des fleuves sur Mars. Poussant l'hypothèse plus loin, certains y ont vu une autre planète habitée de notre système solaire. Étrangement, les habitants supposés ne sont pas rouges, mais du plus beau vert dans leur figuration la plus commune. Depuis 1976, des sondes et des engins d'exploration sont régulièrement envoyés, mais rien ne permet de croire à ce jour à l'existence d'une quelconque forme de vie sur Mars la Rouge. Tout comme la Terre, Mars est dotée de deux calottes polaires mais qui ne sont pas permanentes. Elles fondent au printemps martien. La composition interne de Mars semble aussi la rapprocher de celle de la Terre, avec un noyau, un manteau et une croûte. La géographie est marquée par la présence d'immenses vallées et canyons, comme ceux de Valles Marineris, long de plus de 3000 km. Certains scientifiques envisagent l'hypothèse d'anciennes vallées glaciaires.
N'oubliez pas, et pourtant elle tourne. Galileo Galilei, dit Galilée, né en 1564 et mort en 1642, connaît une brillante carrière scientifique, protégée à la fois par le pape Urbain VIII et l'ordre des Jésuites. Mais tout se gâte avec la tenue du Concile de Trente, qui se déroule entre 1545 et 1563. Devant les progrès enregistrés par la Réforme et le protestantisme, l'Église catholique réaffirme ses positions, notamment en matière de démarche scientifique. Désormais, l'interprétation des résultats scientifiques relève du seul domaine de l'Église. En 1616, le système héliocentrique de Copernic, qui place le Soleil au centre de l'univers, est condamné par l'Église. Condamnation rendue publique en 1633. Or, en 1631, Galilée publie son dialogue, œuvre maîtresse dans laquelle il évoque à mots couverts l'erreur de Ptolémée et d'Aristote, plaçant la Terre au centre de l'univers, selon le système géocentrique. Il développe, avec une sympathie évidente, le système de Copernic. En 1633, le procès de Galilée s'ouvre à Rome. Accusé d'hérésie, menacé de finir brûlé vif, Galilée, âgé de 69 ans, cède et renie l'œuvre d'une vie, abjurant ses théories hérétiques. Il meurt à Florence à 78 ans. L'histoire lui prête cette phrase fameuse, qu'il n'a certainement jamais prononcée, au sortir de l'abjuration solennelle. Et pourtant, elle tourne, évoquant la rotation de la Terre sur elle-même, inadmissible pour l'Église qui voulait des astres fixes. En 1822, le Vatican retire les œuvres de Galilée de l'index, liste des ouvrages interdits, et en 1984, le pape Jean-Paul II laisse libre ceux qui le veulent d'accepter la théorie de Galilée, sans la reconnaître formellement. Le saviez-vous ? Mars attaque. L'étude de l'univers donne lieu, dans l'imaginaire collectif, à de nombreux fantasmes, peurs et conjectures qui trouvent écho dans la science-fiction. Un genre qui fait florès en littérature ou au cinéma depuis le XIXe siècle. Le 30 octobre 1938, veille d'Halloween, le jeune Orson Welles fait vivre à ses auditeurs, sur la radio américaine CBS, l'adaptation radiophonique du roman de Herbert Wells, « La guerre des mondes ». Il y met une telle fougue, annonçant l'arrivée des Martiens dans le New Jersey, près de Princeton, qu'il déclenche une panique au fil des bulletins d'information qui poussent des milliers d'Américains à fuir leur domicile. Les rappels de la nature fictive de l'émission, avant, pendant et après, ne font qu'accroître la peur. Les auditeurs y voient une ruse des Martiens pour débarquer sans rencontrer de résistance.